L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local. Aujourd'hui, on va parler de propositions pour bien vieillir. Elles ont été formulées lors des ateliers citoyens mis en place et portés par le député mayennais Guillaume Garot. Nous en détaillerons justement quelques-unes de ces propositions. La parole donnée à deux danseurs qui devaient se produire sur scène avec l'entracte à Sablé. Pas de représentation publique, comme vous le savez, mais des créations à regarder depuis chez vous et deux univers à découvrir dans l'interview. Et puis en fin d'émission, on vous propose de donner une deuxième vie à votre vélo, vous savez, celui qui traîne dans le garage sans être utilisé, une idée à retrouver en fin d'émission, donc dans les initiatives. Tout de suite, on fait un point sur l'actualité en Mayenne. La plateforme pour la vaccination assaillie d'appels ce matin. 3000 nouveaux créneaux de rendez-vous avaient été ajoutés tôt ce matin pour les personnes âgées de plus de 75 ans en centre de vaccination. Mais il n'en reste déjà plus, 55 000 coups de téléphone ont été passés entre 8 et 9 heures ce matin. En parallèle, les médecins généralistes pourront bientôt directement administrer le vaccin AstraZeneca aux professionnels de santé sur rendez-vous, puis pour la population âgée de 50 à 64 ans atteinte de pathologies à haut risque. Depuis le début de la campagne de vaccination, 21 300 doses de vaccins ont été administrées en Mayenne. Une nouvelle entreprise lauréate du plan de relance. Basée à Louvernay, la société Mann Hummel est spécialisée dans les filtres et pièces plastiques sous moteur et elle fait partie des lauréats du fonds d'investissement et de modernisation du secteur automobile. Le projet soutenu par l'État s'appelle Smart Factory et il a pour objectif de digitaliser l'usine, d'améliorer l'utilisation des données et de commencer à réfléchir à l'usage de véhicules électriques ou à hydrogène. Un départ de feu dans un gîte de vacances à Saint-Hilaire-du-Maine. L'incendie s'est déclaré hier soir vers 18h30 à la Gadellerie. Son origine, une hotte aspirante dans la cuisine d'un gîte de vacances. Ses 11 occupants ont été évacués le temps de l'intervention des pompiers. Il n'y a eu heureusement aucune victime. La ville de Château-Gontier lance une campagne pour piéger les frelons asiatiques. Une centaine de pièges va être installée dans les arbres, près des endroits où des nids de frelons asiatiques ont déjà été détectés. Ces pièges sont composés d'une base percée dans laquelle est versé un mélange de bière et de grenadine et d'un couvercle étanche. Un mélange constitué notamment grâce au don de 120 litres de bière de l'enseigne V&B. En 2019, 200 frelons reines fondatrices avaient été piégés et vous pouvez vous aussi faire votre propre piège artisanal avec une bouteille plastique coupée en deux. Mais attention surtout à bien retirer ces pièges fin mars pour ne pas y prendre d'autres insectes comme les abeilles ou les papillons. Le chanteur Maître Gims, ou Gims plutôt maintenant, comme il veut qu'on l'appelle, attendu à l'espace Mayenne. Les travaux de cette grande salle de spectacle et d'événements devraient se terminer fin mars et on connaît déjà les premières affiches. Gims donc devrait être sur scène le 18 septembre prochain pour un concert privé. Le spectacle Irish Celtic, lui, est prévu pour le dimanche 21 novembre et Véronique Dicker devrait venir en mars 2022. 5 noms possibles pour le groupe scolaire de Cran. La municipalité avait proposé aux habitants de soumettre leurs idées pour le nom du futur ensemble scolaire public. Et parmi les 35 propositions qui ont été reçues, 5 ont été retenues. Simone Veil, Gironde, en référence au nom du quartier. Constance Lainé, c'est une résistante cranaise. Le groupe scolaire de Loudon ou Yann Arthus Bertrand. À vos votes pour le choix final, vous avez jusqu'au 14 mars pour déposer un bulletin de vote soit à l'hôtel de ville ou voter sur le site internet de la ville de Cran. La départementale 28 interdite à la circulation à Gênes-Longuefuy. À cause des travaux d'abattage d'arbres entrepris par le conseil départemental, la route sera donc bloquée jusqu'à jeudi soir. Une déviation a été mise en place par les départementales 15 et 145. Et puis du foot avec le retour au championnat pour les Lavallois. Après leur aventure stoppée en Coupe de France, les Tangos reçoivent Cholet ce soir à 18h. Sur le banc, ce sera sans le coach Olivier Frappoli qui est malade, mais il sera remplacé par l'entraîneur des gardiens Gilles Bourges. Guillaume Garot formule 7 propositions pour bien vieillir. Issues des ateliers citoyens mis en place pendant l'année 2020 avec une soixantaine d'habitants du département, le député mayennais avait déjà recueilli des propositions sur l'agriculture et l'alimentation ou encore la santé et les déserts médicaux. Cette fois-ci, en prévision de l'examen de la loi Grand Âge, c'est autour de ce thème justement qu'ont été formulées sept propositions que détaille Guillaume Garot.
Une première proposition qui est concrète, qui est sortie, c'est par rapport aux accidents domestiques. Il y a 450 000 chutes chaque année de personnes âgées. On s'est dit, dans l'atelier citoyen, il nous faut une politique de prévention des accidents domestiques. Ça veut dire qu'il faut qu'on aide les personnes à adapter leur logement. Ça veut dire remplacer la baignoire par une douche. Ça veut dire parfois élargir les portes. Il y a une deuxième proposition qui est revenue souvent, c'est comment être bien informé, mieux informé lorsque une personne a besoin d'être par exemple accueillie en EHPAD ou une personne a besoin de services à domicile. Alors les mairies font beaucoup déjà, mais on a besoin d'un guichet unique d'information à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un bassin de vie, pour qu'on ait la bonne information et qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Dernière proposition, c'est le financement de tout ça. Nous, nous croyons en la solidarité nationale. Comment on finance l'accueil dans un établissement, dans un EHPAD? Aujourd'hui, un mois dans un EHPAD, ça coûte entre 1600 et 2000 euros en moyenne. La retraite d'un homme, c'est 1300 euros en moyenne. Une femme, c'est 1050 euros en moyenne. Il y a donc une différence. C'est ce qu'on appelle le reste à charge. Qui supporte? Qui finance ce reste à charge? Nous, on considère que la solidarité nationale doit jouer.
D'autant plus qu'il y aura en France 1,5 million de personnes de plus de 80 ans en plus d'ici 2030, selon le député. Mais l'atelier citoyen n'a pas oublié les aides-soignantes et les aides à domicile qui méritent, selon eux, plus de reconnaissance.
Il faudra de meilleures conditions de travail et aussi, bien sûr, de meilleures conditions de salaire. Parce que si on veut que ces métiers soient mieux reconnus, donc si on veut que ces métiers soient attractifs demain davantage qu'aujourd'hui, il faut nécessairement mieux payer les gens. Les personnes sont bien accueillies et bien traitées dans les EHPAD, mais c'est vrai que parfois ça va tellement vite que c'est pas confortable, c'est pas agréable pour une personne âgée, alors que quand on prend de l'âge, les mouvements sont plus difficiles, on est plus lent, et donc ça demande davantage de temps. Il faut considérer tout ça, et c'est une réponse en effet. Si on a demain davantage de personnes à domicile, donc d'aide à domicile et auxiliaires de vie, et davantage d'aides-soignantes dans nos EHPAD, eh bien ce sera un confort de vie pour nos aînés, c'est évident.
Guillaume Garot propose aussi un plan de rénovation des EHPAD en tendant vers des structures plus petites qu'actuellement. Le projet de loi Grand Âge et Autonomie est annoncé au plus tôt pour l'automne prochain. À suivre, une interview croisée de deux danseurs qui auraient dû se produire sur scène en ce mois de février, mais qui rebondissent et proposent une autre manière d'apprécier leur création. Ils vous en disent plus d'ici 3 minutes après Texas Sky de The Blind Sons. The Blind Sons, Texas Sky sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local et c'est l'heure de l'interview. Faute de scène, les danseurs de l'Entracte s'invitent chez vous. Ils avaient prévu de se produire au mois de février avec l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Sylvain Riéjou et Leïla K proposeront finalement des créations spéciales dansées, évidemment, via les réseaux sociaux. Mais profitons-en pour découvrir un peu leur univers grâce à l'interview réalisée par Mélissa Trouillard, chargée de médiation et de relations publiques à l'Entracte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Sylvain Riéjou et Leïla K, deux artistes programmés dans la saison culturelle 2020-2021 de l'Entracte, la scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe. Nous vous proposons un moment suspendu où nous allons découvrir ces artistes et leur parcours, leurs inspirations, leurs aspirations, ce qui les anime. Leïla K est chorégraphe et interprète. Elle vient des danses urbaines et développe dans son art un mixage des genres. Elle est notamment interprète pour la chorégraphe Maggie Marin, avec laquelle elle découvre la théâtralité dansée qu'elle intégrera dans son écriture chorégraphique. Le solo Peau des Serres est sa première création. Sylvain Riéjou est chorégraphe et interprète. Il a commencé la danse ici, au Conservatoire de Sablé, et après un diplôme de psychomotricien, il décide de devenir danseur. Interprète pour des chorégraphes comme Olivia Granville ou Nathalie Pernette, il se forme en parallèle à la vidéo. Il revient à ses racines saboliennes pour nous présenter son premier solo, « Mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver ». Sylvain Riéjou, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Tout a commencé à Sablé, c'est bien ça ?
C'est ça. Moi, j'ai commencé les cours de danse. Ma sœur en prenait avec Anne Daniel. Moi, je devais avoir 6 ans, donc j'ai commencé à aller un petit peu avec elle au cours pendant 2 ans, peut-être. J'ai fait un spectacle sur la scène de l'Entracte. C'était ma première scène. Et puis, après, au collège, c'est vrai que le fait d'être un petit garçon qui fait de la danse, c'était pas facile à assumer. Sujet de beaucoup de moqueries. Donc, j'ai arrêté et je suis allé plutôt vers le théâtre pendant ma scolarité. Et quand je suis arrivé à la faculté d'Angers, j'ai fait une pièce comme amateur où ça mêlait danse et théâtre. Donc j'ai retrouvé la danse à ce moment-là. J'ai beaucoup aimé. Donc pendant mes études de psychomotricité à Paris, j'ai pris beaucoup de cours de danse à Jussieu, la fac de Jussieu. Et la prof me disait que j'avais vraiment un truc. Elle me disait « on sent que tu t'éclates, quoi ». Et elle m'a inscrite à l'audition du CNDC d'Angers. Moi, j'avais pas du tout de technique, donc je pensais me faire éjecter tout de suite. Et en fait, les auditions qui sont longues, en fait, je suis resté jusqu'au bout. Ils m'ont toujours gardé. Puis à la fin, ils m'ont dit, par contre, on a tout de suite vu que tu n'avais pas le niveau technique pour rentrer dans l'école, mais on sentait un tel désir de danser chez toi que on t'a gardé jusqu'au bout et on te propose de venir suivre des stages gratuitement au CNDC quand tu es libre dans tes études. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant la fin de mes études de psychomote et. Après l'école de psychomotricité, j'ai fait 2 écoles nationales, à Istres et à Toulouse. Et puis ensuite, j'ai passé des auditions et j'ai beaucoup travaillé comme interprète. Voilà. Et puis la chorégraphie, c'est arrivé, si je termine, je vais pas être trop long. Je faisais des petites vidéos danse pendant les tournées de danse, parce qu'on a beaucoup de temps libre pendant les tournées, donc je faisais des petites vidéos danse. Et un jour, j'ai eu la proposition d'une grosse structure à Bruxelles qui m'a proposé de mener une recherche sur la danse et la vidéo. Et de là est né le solo « Mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver », qui devait être présenté à l'Entracte. Voilà.
Leïla, vous êtes de la région Pays de la Loire, vous êtes basée à Saint-Nazaire.
Oui, j'ai grandi à Saint-Nazaire, et maintenant j'y habite plus, mais je suis très attachée à cette ville, et j'ai grandi là-bas, et c'est là-bas que j'ai découvert, que j'ai commencé à danser. Moi, j'ai commencé à danser, par la danse hip-hop. J'avais fait un peu de danse avant, étant petite, comme beaucoup de petites filles, mais j'ai vraiment commencé à danser assez tardivement aussi, moi aussi, et avec la danse hip-hop. Et en fait, j'ai rencontré, parce que là-bas, il y avait un ancien danseur d'une compagnie brésilienne, la compagnie Bruno Beltrão, qui est une grande compagnie assez connue. C'est une compagnie qui a beaucoup tourné, qui est brésilienne et qui a beaucoup tourné en Europe. Et ce danseur-là, qui faisait partie de cette compagnie, s'est installé à Saint-Nazaire et développait ses activités autour de la danse hip-hop. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé avec lui. Mais assez rapidement, très vite même, je me suis éloignée du hip-hop et j'ai été vers la danse contemporaine.
Vous avez créé tous les deux un solo. Pourquoi cette forme ?
Parce que je pense que, enfin moi en tout cas, quand on commence, c'est la forme la plus simple peut-être. En tout cas, quand on, enfin moi j'étais voilà, je sortais de la compagnie de Maggie Marin justement et j'avais des choses à dire et donc je me suis même pas posé la question de savoir si je faisais un duo, un trio ou un solo. Je me suis dit que j'allais faire un solo.
Moi, là où je rejoins Leïla, c'est que créer un spectacle, il y a des enjeux de production, comme on dit, il faut trouver de l'argent. Travailler avec des gens, ça veut dire les payer. Travailler pour soi-même, bon, bah, c'est déjà beaucoup plus simple. Donc moi aussi, c'était une question de simplicité. Voilà. Et puis après, je me disais qu'avant d'avoir un vocabulaire à transmettre à d'autres danseurs, il fallait peut-être déjà que j'en ai un qui soit clair pour moi-même. Et du coup, j'ai commencé à appliquer mes méthodes de travail déjà à moi-même. Parce qu'il y a des chorégraphes qui ne sont pas danseurs, donc ils ne peuvent pas faire ça, mais nous, avec Leïla, on a ce point en commun d'être chorégraphe et danseur. Et voilà. Après, moi, j'ai fait un petit pied de nez au mot solo, dans le sens où ce n'est pas vraiment un solo, parce que c'est moi et mon double virtuel, donc on en a quand même vraiment deux en scène, lui à travers les enceintes et l'écran vidéo, et puis moi sur le plateau. Mais j'ai réussi un peu à tordre le propos du solo. Mais ma nouvelle pièce, c'est vraiment un pur solo, pour le coup.
Quel est votre processus de création et vos inspirations ?
Au niveau du processus de création, moi, je pense que c'est un truc... en tout cas, parce que la façon dont j'ai procédé pour mes deux premières pièces, parce que j'ai fait que deux pièces, c'était, je pense, quelque chose d'assez instinctif ou intuitif, en tout cas. Je me suis pas... J'ai pas mis, avant de commencer à créer, j'ai pas mis de mots sur ce que je voulais dire. Je savais de quoi je voulais parler, c'était des émotions, mais je mettais pas de mots dessus. D'ailleurs, j'ai du mal à parler de mon travail et parce que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intime. Et le danser, c'est facile. Par contre, mettre des mots dessus, on se dévoile. C'est beaucoup plus intimidant, je trouve. Et donc c'est pour ça que, enfin, en tout cas moi, mon processus de création, c'est un truc assez intuitif et je sens que je sais de quoi je parlais, mais je mets pas de mots dessus, ni dans ma tête réellement, ni pour en parler. Et d'ailleurs, ça me fait un peu défaut, mais et puis sinon enfin voilà. En tout cas moi, comment j'ai procédé jusque là.
Moi, je sais que j'ai fait deux solos, donc pour l'instant, je n'ai pas encore un processus qui est figé, et j'espère qu'il ne le sera jamais d'ailleurs. Mais moi, je me donne un thème. Donc le premier solo, c'était plutôt la difficulté de créer, l'artiste un peu romantique et torturé. Le nouveau, c'est la question de la nudité en danse contemporaine. Donc à chaque fois, je me donne un thème de base, et bizarrement, la première chose que j'écris, c'est la danse finale, à chaque fois. Et donc j'écris une danse qui semble pour moi correspondre au thème. Et puis après, je construis toute une espèce d'auto-fiction autour de toutes les étapes que j'ai traversées pour arriver à cette danse-là. Donc moi, je prends beaucoup de notes sur tout ce qui m'inspire par rapport à un thème. Et puis après, je construis une espèce de fausse histoire, mais basée sur des faits réels. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de paroles. Et je propose toutes les danses qui m'ont amené finalement à cette danse finale. Et je mets souvent presque une heure à dévoiler un truc qui dure, une danse qui dure entre 2 et 5 minutes, quoi. Et voilà, donc je prends les choses un peu à l'inverse. Et après, peut-être qu'un truc, parce qu'avec Leïla, on s'est rendu compte déjà qu'on avait beaucoup de sources d'inspiration en commun, que ce soit notamment le théâtre muet, Charlie Chaplin, Buster Keaton, on en a parlé. Et puis je sais pas toi comment tu fais, mais moi en tout cas, j'appelle beaucoup des gens extérieurs pour m'aider à travailler, en particulier une danse. À un moment, je voulais une danse très saccadée. J'ai fait appel à un ami à moi qui fait pas de la break, mais du pop, voilà, c'est ça. Ou alors, si j'ai envie de faire une danse qui est un peu d'inspiration classique, j'appelle une amie qui est danseuse classique. Enfin, voilà, je fais vraiment intervenir des gens. Donc, je ne sais pas si toi, Leïla, tu...
Eh ben, moi, à l'inverse, je ne fais pas intervenir de gens parce que je trouve ça trop intimidant. Par contre, je regarde beaucoup de vidéos sur Internet et effectivement, si je veux chercher une matière spécial, je regarde des vidéos sur Internet, donc je fais appel à des gens mais qui ne me voient pas, quoi. Parce que je trouve ça trop intimidant et surtout
La situation actuelle est bouleversante pour les artistes du spectacle vivant. Qu'est-ce que ça change dans votre travail ?
Bah, tout. non, mais... Bah, alors, moi, je sais que j'ai la chance d'avoir ma première pièce, il y a une version jeune public. Donc, et comme c'est une pièce qui est très, très légère techniquement, j'ai pu aller la jouer dans les écoles. J'ai des lieux qui m'ont proposé de l'adapter dans les écoles. Donc, moi, ça m'a fait découvrir une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière d'aller à la rencontre des jeunes spectateurs d'une manière beaucoup plus directe, où ils ne sont pas, eux, plongés dans le noir et moi, mis en lumière. Donc, du coup, on ne voit pas les spectateurs quand on est sur scène. C'est un point important à préciser. Et là, dans les écoles, bah, on continue à avoir les 30 petits regards un peu comme ça, captivés, ou alors justement complètement qui s'ennuient. Mais du coup, moi, pour l'instant, ça m'a apporté quelque chose. J'ai envie de dire que, bizarrement, ça m'a apporté pas mal de choses, là. Le confinement, ça m'a vraiment permis de repenser ma manière de travailler différemment. Mais c'était aussi une manière de se rassurer, de se dire que quoi qu'il arrive, on pourra continuer à faire notre boulot. Et puis après, je crois que j'ai pas trop envie de voir en ce moment la douleur que ça me produit de pas aller sur scène, parce que j'ai pas envie de m'effondrer, en fait. J'ai plutôt envie, vous, à l'entracte, on nous a proposé des choses, j'ai plutôt envie de mettre mon énergie dans construire des choses avec les lieux qu'on a envie, plutôt que de m'enfermer dans un truc qui pourrait être un peu dépressogène, comme en mars, où là c'était vraiment plus difficile parce que tout était fermé. Oui. Et du coup, j'ai plutôt envie en ce moment de mettre mon énergie à réfléchir autrement mon métier. Je sais pas, toi.
Oui, moi je dirais pareil. Le premier confinement, pour moi, ça a été. Tout était arrêté. Et moi, j'attendais juste que ça reprenne, mais sans rien faire. Et c'était ça, du coup, qui était assez dur, parce qu'on faisait rien, enfin, en tout cas moi. Mais par contre, là, sur ce deuxième confinement, c'est. Effectivement, il y a des nouvelles choses qui se créent et qui s'inventent. Du coup, ça reste quand même, malgré tout, une période assez stimulante. Enfin, on cherche à créer des situations qui vont être stimulantes. Et du coup, toutes les tournées sont annulées, etc. Mais il y a des nouvelles choses qui sont créées et qui font que on ne déprime pas.
Après, je pense que c'est important quand même de rajouter une chose, c'est que Leïla, comme moi, on a la chance d'avoir une structure, enfin d'avoir notre travail personnel et d'avoir beaucoup de soutien. Ouais. Donc, on est des artistes qui pouvons un peu rebondir par rapport à ça. il faut quand même préciser aux gens qui ne connaissent pas forcément hyper bien le milieu du spectacle qu'il y a des artistes qui ne sont pas du tout dans cette situation-là, parce que soit ils sont uniquement interprètes, donc pour eux tout s'arrête. Il y a aussi tous les techniciens du spectacle qui sont souvent intermittents et pour qui tout s'arrête. Et du coup, nous, on a la chance de réussir à combiner des choses avec des lieux, ouais, qui nous soutiennent beaucoup, ce qui n'est vraiment pas le cas de la plupart des artistes. Ouais. Et donc, il ne faut pas croire que c'est rose pour tout le monde. Je, ouais, pense que ce n'est vraiment pas le cas du tout. Voilà.
Question bonus. Si je vous demande de nous partager une œuvre d'art, coup de cœur, ce serait...
Alors moi, je vais citer une œuvre qui a été à la base de mon nouveau solo. Qui est l'Olympia de Manet. Donc c'est une peinture qui a été peinte par Manet, je crois que c'était pour 1863, au salon de 1863, mais je me trompe peut-être dans la date. Et en fait, c'est une femme nue, qu'on peut trouver sur Internet, hein, l'Olympia de Manet. C'est une femme nue qui est représentée allongée un peu dans la pose des divinités grecques, représentées à la Renaissance. Et Manet a repris exactement, plus ou moins quasiment, la composition d'un tableau de Titien, donc qui date là du XVIe siècle, où on a une Vénus qui est représentée nue. Et à cette époque-là, on pouvait représenter vraiment que des corps nus uniquement si c'était des divinités, des dieux ou des déesses. Et lui, Manet, représente une courtisane nue, parce qu'il y a plein de signes qui montrent qu'on est dans une maison close, notamment le fait qu'elle ne soit pas nue mais déshabillée, parce qu'elle garde encore un petit collier, des petits chaussons. Et donc Manet, en fait, il a tordu vraiment le propos en transformant sa composition de manière à emmener ça dans une maison close. Et donc c'est lui qui a vraiment amené un vrai corps de femme avec aussi ses défauts, entre guillemets, et pas une perfection des pieds à la tête. Et je pense qu'il a vachement émancipé le corps des femmes avec cette œuvre. En tout cas, voilà. Et c'est une œuvre, moi, qui pour moi est vraiment très importante.
Alors moi je dirais, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure en plus, c'est une série de Bruno Dumont qui s'appelle Le Petit Quinquin, qui a été diffusée sur Arte il y a 2-3 ans je crois. Et alors moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est qu'il met en scène, les personnages de la série sont des personnages, la série est complètement absurde et c'est des personnages complètement... complètement bancal, complètement tordu, complètement complètement décalé. Et moi, c'est ce décalage-là que j'aime beaucoup. C'est l'absurdité, c'est ce truc absurde que j'aime beaucoup. Et cette série-là, depuis que je l'ai vue, j'y repense très souvent. Et je regarde des extraits assez régulièrement parce que je trouve ça génial. Voilà.
Merci Leïla K, merci Sylvain Riejoux pour cette parenthèse. Nous vous donnons rendez-vous mardi 23 et mercredi 24 février à 20h30 en direct sur YouTube pour la diffusion exceptionnelle de leurs objets artistiques créés pour l'occasion.
Vous l'avez compris, donc rendez-vous ce soir à 20h30 sur YouTube et demain à la même horaire, 20h30, pour au même horaire d'ailleurs. C'est masculin, pour apprécier les créations spéciales des danseurs. Cette interview est à réécouter évidemment sur notre site l'autreradio.fr comme d'habitude, mais aussi sur le site l'entracte-sablé.fr. On revient évidemment d'ici quelques minutes, le temps d'une petite pause musicale avec Please Don't Stop de Richard Bona.
Keep my cool, but I can't help myself. You make me act a fool. Oh, sweet things you say, the sexy way you move. I get so excited, babe. I don't know what to do. I really wanna be your only one. Forget about the rest. Why stop with good enough when you can have the best? Oh. What I'm trying to say is, won't you stay? I'll stick with you. Baby, don't stop doing what you're doing.
Don't you understand? Tunjon ya dunyam. Kabunja mamuliman. Jingle fire. And big day, my body, easy one more. You got very good friends, good friends. You money to my long dog.
Please don't stop, don't stop loving me, doing what you do.
Please don't stop,
cause honey, I know I can't stop loving you.
Please don't stop,
I'm such a lucky guy, got you next to me. Baby, no, please don't go, you never ever have to leave.
Stick with me, I can be more than you know. I'll be your best of friends, next to kin, your homie and your lover. Then baby, everything you need, you can find it in me.
The news that I'm seeing that happened to you. So na mo na wanja, mo na din yanga. I'm pulling all your singers.
Please don't stop, don't stop loving me, doing what you do. Cause honey, I know I can't stop loving you.
Please don't stop,
I'm such a lucky guy, that you're next to me.
Please don't go,
baby, no, please don't go.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio et c'était Richard Bona avec Please Don't Stop. C'est désormais l'heure de la rubrique initiative qui est normalement présentée par Claire. En son absence, je vais tenter de faire de mon mieux. Et on commence avec une affiche qui aurait pu être placardée à Évron. Bikes Wanted. Alors, soit une fois mon très bel accent traduit, vélo recherché. En effet, le centre social du Trait d'Union à Évron lance un appel aux dons pour ses bénévoles de l'atelier Biclou. Alors, si vous avez un vélo que vous n'utilisez pas chez vous, c'est le moment de l'apporter au Trait d'Union. Une fois réparé, la bicyclette sera remise aux étudiants, stagiaires, retraités ou vacanciers pour leurs déplacements. En ce moment, ils servent aussi, Covid oblige, pour des activités sportives scolaires en remplacement du sport en salle. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à téléphoner au 02 43 01 63 22. Après Évron, on part du côté de Cossé-Luvien prendre un bon bol d'air. Grâce à une sortie prévue le mardi 2 mars avec l'association Mayenne Nature Environnement, le rendez-vous est fixé ce mardi 2 mars donc à 14h30 à la prairie de Cossé pour découvrir toutes les zones humides, de la plus ordinaire à la plus remarquable, nous promet l'association, et leur rôle dans le cycle de l'eau. C'est gratuit sur inscription au 02 43 02 97 56, donc auprès de l'association Mayenne Nature Environnement. N'oubliez pas surtout de prendre des bottes, des vêtements chauds et un appareil photo. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce mercredi 23 février. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura un best-of justement de cette émission, Les Agités du Mois, pour écouter ou réécouter trois feuilletons radio qui ont déjà été diffusés. Ce sera suivi à 20h de The Voice of Cassandre et à 21h de Frères de Chaussures. Et nous, évidemment, on se retrouve demain à 12h15 pour une nouvelle édition de L'Agité du Local. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview.
Voilà, c'est l'agité du local.